Je vous propose de voir ce matin le message du prophète Joël. Joël et le jour de l'Éternel. Ce prophète a été cité, comme on l'a vu déjà ce matin, par l'apôtre Pierre dans sa prédication le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et il l'a fait pour expliquer ce jour, pour expliquer à la foule réunie que ce qui était en train de se passer ce jour-là sous leurs yeux, la venue du Saint-Esprit sur les disciples, était la réalisation d'une promesse qui avait été faite quelques siècles auparavant. La promesse divine telle qu'elle avait été prêchée par le prophète Joël. Et Pierre cite ce passage où Dieu dit par la bouche de Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, etc. etc. » Ce qu'ils étaient en train de vivre à Jérusalem ce jour-là était la concrétisation de ce qui avait été annoncé par le prophète et qui avait été d'ailleurs affirmé, réaffirmé par Jésus lui-même. C'était l'inauguration de l'ère du Saint-Esprit dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Or, en lisant le prophète Joël en entier, c'est un petit livre de 4 chapitres, nous découvrons un message vraiment pertinent pour nous encore aujourd'hui. Même s'il est difficile de dater son livre, car il n'y a pas vraiment d'indice capable de nous aider, il ne mentionne aucun roi d'Israël, ni aucune autre nation de cette époque, et donc c'est très difficile de le situer dans l'histoire du peuple d'Israël. Il mentionne à peine quelques plaies qui se sont abattues sur Juda, mais cela ne suffit pas à nous aider. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que son message, qui semble avoir été adressé au royaume de Juda, est un message finalement valable pour toutes les époques, car il s'agit d'un appel à la repentance, un appel à la repentance et de la réponse que Dieu donne à celui qui répond à son appel. On ne sait pas non plus grand-chose sur ce prophète. Certains commentateurs bibliques appellent Joël le prophète du temple, le prophète du culte, car il fait souvent référence au temple et à la maison de l'Éternel et à la montagne de Sion dans son livre. Ce qui semble indiquer qu'effectivement son centre d'intérêt c'était le temple, c'était le culte pratiqué dans le temple. Et on peut très bien imaginer que Joël ait prêché ce message au peuple justement rassemblé dans le temple, peut-être lors d'une occasion spéciale. Le thème de son message, le thème central de son message, c'est donc le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Cette formule qui revient à plusieurs reprises dans son message, au moins 5 fois, il utilise cette expression, le jour de l'Éternel. Mais avant de voir ce que cette expression signifie dans la bouche de Joël, nous remarquerons d'abord qu'il commence son message prophétique par une invitation adressée aux vieillards du peuple, les vieillards qui étaient les dépositaires, n'est-ce pas, des souvenirs du peuple, les vieillards qui avaient des responsabilités vis-à-vis de celui-ci, et à tous les habitants du pays, pour qu'ils gardent le souvenir de ce qui était en train de se passer au milieu d'eux, qu'ils gardent le souvenir et qu'ils le racontent aux générations futures. Au chapitre 1, versets 2 et 3, il dit « Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération suivante. » Oui, il fallait garder en mémoire cet événement, ces événements qui étaient en train de se dérouler. Et les raconter, car il s'agissait de quelque chose de très important qui, selon le prophète Joël, et contrairement à ce que certains pouvaient penser, n'avait rien d'ordinaire. Les moments extrêmement difficiles qu'ils étaient en train de vivre, comme nous allons le voir, avaient finalement une signification profonde, une signification spirituelle. Ces événements-là faisaient partie du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Et Joël invite les uns et les autres à comprendre cela. Et il invite les uns et les autres à en témoigner aux nouvelles générations. Ce qui montre bien d'ailleurs que ce message transcende les temps, les générations, et qu'il s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Et je peux bien imaginer que Joël ait prêché ce message lors d'une fête de la moisson. Ce n'est pas écrit dans le livre, mais je vois bien ce message lors de cette fête de la moisson. Vous savez que le peuple d'Israël avait l'habitude de célébrer 50 jours après Pâques, au moment des récoltes, la fête de la moisson, appelée plus tard la Pentecôte. C'était une fête pleine de réjouissance pour remercier Dieu pour les récoltes abondantes que Dieu avait permises, pour ses bienfaits. Et chacun venait au temple et il apportait des offrandes en nature, le produit de ce qu'ils avaient récolté. Et il remerciait Dieu pour la moisson. Oh, la fête de la moisson, cette fois-ci, en tout cas cette année-là, ou ces années-là, parce que quand on lit ce livre de Joël, on voit qu'il laisse entendre que cette période dont il parle a été longue, très longue. Cette fête-là n'était pas comme les autres, c'est le moins ce qu'on puisse dire, car il y a eu des gros problèmes. Ils ont dû faire face à des gros problèmes. Au verset 9 et 13, toujours au chapitre 1er, Joël dit « Quant au temple de l'Éternel, libation et offrande lui font défaut. Les prêtres qui font le service de l'Éternel sont dans le deuil. Hurlez, vous tous qui officiez devant l'autel. Venez passer la nuit vêtus d'un habit de deuil, vous qui servez mon Dieu, parce qu'il n'y a plus d'offrande ni de libation qui arrive dans le temple de votre Dieu. » La fête de la moisson, en fait, ne pouvait pas avoir lieu. Elle ne pouvait pas avoir lieu. En tout cas, ce n'était pas ce qu'elle devait être. Parce que le peuple ne pouvait plus rien apporter au temple. Il n'avait pas de quoi faire la fête. D'ailleurs, il n'avait même pas le cœur à la fête. Que s'est-il passé? C'était, en fait, l'avant-goût du jour de l'Éternel. L'avant-goût du jour de l'Éternel qui était en train de se manifester au milieu du peuple. Plusieurs calamités étaient en train de s'abattre sur eux. Et il donne des détails au chapitre 1er de son livre. Par exemple, au verset 4, il dit « Ce qu'a laissé le vol de sauterelles, d'autres sauterelles l'ont dévoré. Ce que les sauterelles ont laissé, les criquets l'ont mangé. Ce que les criquets ont laissé, les grillons l'ont mangé. Leur récolte qui était, on peut imaginer, quelque chose de vital pour eux, pour leur subsistance. Peut-être même plusieurs de leurs récoltes successives avaient été détruites, anéanties par l'invasion de sauterelles et de criquets. On ne peut comprendre ce que cela signifie exactement que si l'on sait qu'il s'agit d'un peuple rural, qui vivait donc de l'agriculture et dont la survie dépendait uniquement du produit des récoltes. Et à cette époque-là, il n'y avait rien qui ressemblait à des aides ou à des subventions de la communauté européenne, n'est-ce pas, au cas de catastrophes naturelles. Donc ils ne pouvaient compter que finalement sur eux-mêmes. Si l'on ajoute aux attaques de sauterelles la sécheresse, qui sévissait aussi à ce moment-là, et à la sécheresse, les incendies, car au verset 20, nous lisons, il nous dit, « Même les bêtes sauvages vers toi se tournent, car les cours d'eau se sont taris, et le feu a dévoré les pâturages de la steppe. » On peut, dans ces conditions-là, imaginer la situation catastrophique dans laquelle le peuple se trouvait, le désarroi, n'est-ce pas, du peuple à cette époque du prophète Joël. J'ai pu voir de mes yeux au Cameroun, pays où il fait très chaud, où il y a parfois des sécheresses aux conséquences graves, ce que c'est qu'une invasion de sauterelles. Et ce que cela fait après leur passage, c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Impressionnant de voir des nuées de sauterelles venir tout d'un coup, on le voit, venir du ciel, se poser sur un champ, s'attaquer aux champs, c'est le cas de le dire, J'étais stupéfait de voir l'agilité de ces petites bêtes, leur appétit vorace, leur célérité et leur énorme capacité de destruction. Après leur passage, il ne reste plus rien, absolument rien. Les champs sont complètement dévastés, anéantis. Les ravages sont vraiment terribles. Et les paysans, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de déplorer la perte totale de leur récolte. Selon certains, ce sont les sécheresses qui créent les conditions propices dans des pays chauds, comme c'est le cas en Palestine aussi, à la prolifération rapide de sauterelles. Il paraît qu'une grande quantité d'œufs, de leurs œufs, n'étant pas noyés par les eaux des pluies, les eaux pluviales, ces œufs-là vont donner naissance à des milliers et des milliers de sauterelles. Alors que s'il y avait une bonne pluie, beaucoup de ces œufs seraient détruits. C'est un peu comme chez nous en Europe, n'est-ce pas, en hiver. S'il n'y a pas quelques jours d'hiver vraiment rigoureux, quelques semaines, les parasites vont vivre et vont aussi faire leurs dégâts, vont détruire beaucoup de choses. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, on voit bien ce que Joël dit, les sécheresses favorisent les incendies. Les incendies détruisent les pâturages pour les animaux. Comme il ne pleut pas, les nappes phréatiques tarissent aussi les puits. Donc il n'y a plus d'eau ni pour les humains ni pour les animaux. Assoiffés et manquant de nourriture, les animaux meurent et la situation des gens devient terrible. La famine s'installe et ainsi de suite. C'est, comme on dit, l'effet domino, n'est-ce pas, aux conséquences terribles pour la vie animale, humaine et végétale. Donc le fait que Joël présente tous ces fléaux ensemble nous paraît tout à fait plausible. Lisons par exemple la description qu'il fait toujours au chapitre 1 de la situation, à partir du verset 10. Les champs sont ravagés, la terre est dans le deuil, car le blé est détruit, le vin épuisé et l'huile fraîche a tari. Les laboureurs sont épuisés, les cultivateurs des vergers, les vignerons hurlent à cause du blé et de l'orge, car il ne reste rien de la moisson des champs. Tout est perdu, les vignes sont épuisées, les figuiers dépérissent, le grenadier, le palmier, l'abricotier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie est tarie parmi les hommes. Voilà l'état des lieux que nous présente Joël, le tableau de désolation peint par ce prophète. Et comme il est témoin de cette situation catastrophique, il va s'en servir pour faire quoi ? Pour transmettre un message de la part de Dieu au peuple. Comme tout prophète digne de ce nom, Joël a la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu au peuple, surtout dans ce contexte terrible, dans ce contexte particulier, de rappeler la parole de Dieu à ce peuple qui n'a pas toujours conscience du fait que certains événements particuliers, n'est-ce pas, sonnent vraiment comme des avertissements de la part de Dieu auxquels il faut être attentif. Même si ces événements catastrophiques semblent être naturels, ce qui est sûr, c'est que selon le prophète Joël, c'est Dieu qui parle. Dieu qui utilise ces événements pour parler aux hommes, pour les réveiller, pour les pousser, pour pousser son peuple à changer de comportement, à se repentir, à se convertir, à se tourner vers lui, à porter ses regards, non pas sur les choses d'ici-bas, mais sur Dieu lui-même. Vous savez, même les magiciens de Pharaon, n'est-ce pas, à l'époque, l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte, étaient, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont vu dans les plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte, le doigt de Dieu. Même les magiciens ont vu cela dans ces événements. Maintenant, c'est le peuple de Dieu qui est traité comme les Égyptiens ennemis. Et cela mérite donc réflexion. Cela mérite que le peuple s'interroge sur le pourquoi d'une telle situation. Le peuple de Dieu qui passe par les mêmes problèmes que les peuples environnants païens. Pourquoi Dieu permet-il cela à son peuple ? Que veut-il dire passé, catastrophe, successive? Joël utilise donc, comme tous les prophètes, l'actualité de son temps, l'actualité de son époque, pour illustrer l'action de Dieu. Et au chapitre 1er, il parle donc des calamités que l'on vient de voir, l'invasion des sauterelles, la sécheresse, les incendies, la famine, etc., comme étant le prélude du jour de l'Éternel, l'avant-goût du jour de l'Éternel. Et au chapitre 2, il fait encore trembler ses auditeurs. Il fait encore trembler ses auditeurs en évoquant le jour de l'Éternel, un jour terrible à venir sur son peuple. Son peuple sera envahi par un peuple ennemi et subira une défaite écrasante. Et il fait savoir qu'il s'agira là du châtiment de Dieu sur son peuple. Le châtiment de Dieu pour punir ce peuple qui vit dans l'infidélité à Dieu. Ce peuple qui se détourne constamment de Dieu. Le jour de l'Éternel est un jour de jugement. C'est ce que le prophète nous dit. Les images qu'il emploie pour décrire ce jour-là sont vraiment affolante, terrifiante. À partir du verset 1 du chapitre 2, il dit « Sonnez du cor en Sion, lancez la clameur sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays frémissent, car il arrive le jour de l'Éternel, il est tout proche, jour de ténèbres et d'obscurité, des nuées épaisses et de brouillards, il vient comme l'aurore déployée sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans les générations à venir. Un feu dévore devant lui, et la flamme consume derrière lui. Le pays était devant lui comme un jardin d'Éden, mais après son passage, ce n'est plus qu'un affreux désert tout entier dévasté. Non, rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux qui s'élancent comme des chevaux d'attelage, ils courent. Les voilà qu'ils bondissent dans un fracas semblable à celui du char cahotant au sommet des montagnes. C'est le crépitement d'une flamme de feu qui dévore les chaumes. Et c'est comme un peuple puissant en ordre de bataille. Et à cause de lui, les peuples sont saisis d'angoisse. Tous les visages pâlissent de frayeur. Les voilà qui se précipitent comme des guerriers et comme des soldats. Ils escaladent la muraille. Chacun va son chemin sans dévier de sa route. Nul ne bouscule son voisin. Chacun suit sa voie. Il se rue au travers des projectiles sans rompre les rangs. Ils fondent sur la ville, courent sur la muraille, escaladent les maisons, entrent par les fenêtres comme des voleurs. Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat, tandis que l'Éternel fait retentir sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Le jour de l'Éternel est grand, il est très redoutable. Qui pourra le supporter? Qui pourra le supporter? Les calamités, les sauterelles, les incendies, la sécheresse, etc., comme l'ennemi qui va envahir et occuper le pays, ce sont donc des malédictions promises sur le peuple, comme étaient promises les bénédictions aussi. Comme étaient promises les bénédictions. Or, les bénédictions sont conditionnelles. Les bénédictions sont conditionnelles. Dieu peut renverser la situation et arrêter tous ces malheurs, toutes ces menaces, toutes ces catastrophes, si le peuple se repent de sa mauvaise conduite, si le peuple se tourne vers Dieu. Joël le dit et le redit avec véhémence, puisque vous vous êtes détourné de Dieu, vous n'êtes plus sous sa protection, vous n'êtes plus sous sa garantie. Si vous voulez bénéficier à nouveau des bontés de Dieu, revenez à lui d'un cœur sincère. Revenez à lui d'un cœur sincère. Cette triste situation dans laquelle vous vous trouvez n'est pas due au hasard ou à la fatalité, car le Dieu qui bénit, c'est celui qui punit. Le Dieu qui bénit, c'est celui qui punit. Ce Dieu qui punit est le même qui bénit. Le Dieu qui bénit est celui qui punit. Voilà le message de Joël. Et il demande donc une prise de conscience collective. Les anciens, les prêtres, les parents, les enfants, les jeunes mariés, tout le monde doit choisir ce chemin de repentance, ce chemin de contrition, ce chemin de retour vers Dieu et sortir ainsi des ténèbres et de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils doivent tous chercher à vivre autrement, à se comporter autrement, sinon c'est l'image même de Dieu qui souffre au milieu de son peuple. Et il explique d'une part ce qu'ils doivent faire concrètement pour démontrer leur repentance sincère, et d'autre part ce que Dieu fera s'ils se repentent de leur péché, ce que Dieu fera s'il y a une repentance sincère de leur part. Au chapitre, toujours au chapitre 1, verset 13, il dit « Prêtre, revêtez-vous d'un habit de deuil et lamentez-vous. Hurlez, vous tous qu'officiez devant l'autel, consacrez un jeûne et convoquez une réunion cultuelle. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays à la maison du Seigneur votre Dieu et suppliez l'Éternel. Suppliez l'Éternel. Faites-le et faites-le vite, car le jour de l'Éternel est proche. » Comme un fléau puissant, un fléau dévastateur, déchaîné par le Tout-Puissant, le jour de l'Éternel va venir. Et au chapitre 2, à partir du verset 12, il poursuit son appel à la repentance. Maintenant encore, l'Éternel nous déclare « Revenez à moi de tout votre cœur, avec le jeûne, des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel. » Lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, compatissant, lent à la colère, riche en amour, et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Jeûner, prier, supplier, pleurer ses péchés, se repentir, se tourner vers Dieu, lui, ouvrir leur cœur, se ressembler en culte à Dieu. Voilà ce que tous les membres du peuple de Dieu devaient faire pour échapper à ce jour terrible, le jour de l'Éternel, jour de jugement, jour de colère divine. Pour tous ceux qui s'étaient éloignés de Dieu, il ne fallait surtout pas perdre de temps, n'est-ce pas? Il ne fallait surtout pas ignorer les avertissements de Dieu. Il fallait tout de suite revenir vers le Seigneur. Et dans ce cas-là, Dieu serait miséricordieux, comme le prophète l'annonce. Il serait plein de grâce, plein de miséricorde à leur égard. Il renoncerait à envoyer ce malheur annoncé. Il enverrait à nouveau ses bénédictions abondantes sur le peuple. Comme il le dit d'ailleurs au chapitre 2, à partir du verset 18, l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné et il a pitié de son peuple. Il répond à son peuple, « Je vais vous envoyer le blé, le mou et l'huile fraîche et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples et l'ennemi du nord, je l'éloigne de vous, oui, je le chasse. » Au verset 25, il ajoute, « Oui, je vous dédommage pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel, votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et plus jamais mon peuple ne connaîtra la honte. » Ce retour à Dieu ne sera donc pas sans effet. Ne sera pas sans effet, car le Seigneur rassasiera de nouveau son peuple. Le Seigneur enverra à nouveau ses bénédictions sur son peuple. En fait, le Seigneur n'attend que ce mouvement de retour vers lui. Pour agir, oui, c'est la condition. Pour agir, il veut que le peuple revienne vers lui. Si vous déchirez vos cœurs et si vous revenez à l'Éternel, alors Dieu ouvrira aussi son cœur pour vous. Il vous épargnera ce jugement terrible du jour de l'Éternel, car il est un Dieu plein de grâce et de miséricorde. Voilà ce que déclare le prophète Joël avec la même force qu'il a employée pour annoncer donc ce jugement terrible de Dieu. Et vous avez peut-être noté aussi au passage cette expression de Joël que l'on retrouve dans la bouche de Jésus lorsqu'il parle des derniers temps et de son retour. Ils fondent sur la ville, courent sur la muraille, escaladent les maisons, entrent par les fenêtres comme des voleurs. Le Seigneur Jésus a dit lui aussi qu'il viendrait un jour. C'est la promesse, n'est-ce pas, sa promesse, il reviendrait un jour comme un voleur la nuit. Comme un voleur la nuit. C'est vrai que, hélas, aujourd'hui, on ne parle plus souvent du retour de Jésus. Alors que c'est quelque chose que la Bible annonce, les prophètes l'annoncent. C'est une éventualité à laquelle il faut être préparé. Ou alors, si on l'annonce, peut-être on ne fait plus attention parce que cette nouvelle est annoncée depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une vérité biblique. Une vérité biblique. Le Seigneur Jésus va revenir comme le voleur la nuit. Savonarole, prédicateur du 15e siècle, prêchait souvent sur le retour de Jésus. Et les gens venaient en foule écouter ses prédications. Et quand il prêchait, les gens avaient tellement peur qu'ils se cramponnaient au pilier de l'église en demandant pardon au Seigneur. Joël, lui aussi, en parlant du jour de l'Éternel, il a certainement effrayé son peuple, qui était déjà dans une situation terrible, n'est-ce pas? Mais il a surtout indiqué la porte de sortie. Il a surtout indiqué que Dieu offre le pardon, que Dieu accorde le pardon à celui qui se confie à lui, à celui qui se repent de sa mauvaise conduite. Aujourd'hui, c'est la même chose. Tant que nous entendons l'appel de Dieu à la repentance, ne perdons pas de temps. Revenons au Seigneur. Mettons de l'ordre dans nos vies. Laissons la lumière divine éclairer nos vies, corriger nos erreurs. Voilà le message de Joël. Voilà le chemin du salut. Voilà le chemin du bonheur pour chacun de nous aussi aujourd'hui. Comme les parents qui corrigent leurs enfants, le Seigneur est souvent obligé de corriger aussi son peuple. Il est souvent obligé de nous corriger parce qu'il nous aime, comme les parents aiment leurs enfants. Mais c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Et la Bible dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et juste avant cette affirmation, il dit dans sa parole, « Ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. » Il faut prendre au sérieux la correction du Seigneur, son châtiment. Mais pour Joël, le jour de l'Éternel est aussi un jour de bénédiction pour les hommes, pour son peuple, et un jour de jugement pour les nations. Un jour de jugement pour les nations. Au chapitre 3, à partir du verset 1, il fait référence à cette fameuse bénédiction qui résonnera le jour de la Pentecôte. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alors, tous ceux qui invoqueront l'Éternel, tous ceux qui feront appel à l'Éternel, seront sauvés. Voilà encore une bénédiction ajoutée à toutes les autres que le Seigneur accorde à ceux qui se repentent de leurs péchés et qui se tournent vers lui. Le Saint-Esprit leur est accordé. Le salut leur est accordé. Le Saint-Esprit et le salut leur sont accordés. Dans cette prophétie, on sent déjà l'élargissement du salut, n'est-ce pas, à tous les peuples de la terre, tous les peuples, à tout le monde. On ne parle pas seulement d'Israël, mais de tous ceux que le Seigneur appellera au-delà du strict peuple élu. De même, à la Pentecôte, le message, n'est-ce pas, entendu dans toutes les langues, témoigne de cette ouverture de l'Évangile à toutes les nations de la terre. Et justement, Joël se tourne soudain dans son message vers les nations. Et pour ces nations, il est aussi question du jour du Seigneur, du jour du jugement. Or, le jugement sera, dit Joël, en fonction de ce que les nations auront fait au peuple d'Israël. Et là, soyons attentifs à ce qu'il dit, à ce que les nations auront fait au peuple d'Israël. Au chapitre 4, à partir du verset 2, il dit, « Voici en ces jours-là, en ce temps-là, lorsque je changerai le sort et de Juda et de Jérusalem, Je rassemblerai tous les peuples. Je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors là, j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, le peuple d'Israël, celui qui m'appartient, qu'ils ont dispersé au milieu des nations et au sujet de mon pays qui se sont partagés. Les nations rendront compte de ce qu'elles ont fait au peuple d'Israël. Tout se joue avec Israël, tout se joue autour d'Israël, quoi qu'on en dise, quoi qu'on pense, n'est-ce pas, quoi qu'on en veuille, tout se joue autour du peuple d'Israël. Et il ajoute ceci à l'égard des nations, à partir du verset 5, « Vous avez dérobé mon argent et mon or », je pense qu'il parle de ce qui était dans le temple et qui a disparu, l'arche et tout le reste, n'est-ce pas ? Mes beaux objets précieux, vous les avez emportés dans vos palais. Vous avez vendu les fils de Juda et de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur pays. Eh bien moi, je vais les revigorer pour qu'ils quittent le lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Ce jugement aura lieu à la fin des temps. Et je crois que nous voyons déjà le prélude de ce jugement. Le peuple d'Israël commence à revenir dans son pays, la Palestine. Il y a déjà la nation d'Israël qui a été fondée, qui est là. Et les Juifs continuent à revenir dans leur pays. Bientôt, ce jugement des nations aura lieu. Les nations seront jugées d'après ce qu'elles ont fait au peuple d'Israël. Joël parle encore, et je termine là-dessus, d'un combat ultime où il semble que le monde entier se ligue contre Dieu. Laisse entendre qu'il y aura une armée qui va se retourner contre Dieu. Or, Dieu est le Créateur, le Souverain, il n'a pas peur de ses armées, même si le monde entier se tourne contre lui, n'est-ce pas ? Et Joël nous dit que Dieu va écraser d'une main cette armée et ce pour sauvegarder son peuple. Au verset 16 du chapitre 4, il dit « De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il donne de la voix et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Alors la victoire finale, ce sera celle de Dieu et de ceux qui lui appartiennent. » L'histoire du monde a un sens, même si parfois on s'interroge, n'est-ce pas ? L'histoire du monde a un sens. Tous ces conflits qui tournent autour du peuple d'Israël et qui deviennent des conflits qui touchent la planète tout entière ont un sens. Tout ça fait partie du plan de Dieu. La victoire finale sera celle de Dieu et de ceux qui lui appartiennent. Il y aura un jugement final. Voilà le message de Joël. Voilà le scénario qu'il présente dans son livre, dans son message, qui résume l'histoire d'Israël et celle notre histoire, l'histoire de l'humanité, avec ce message important de Dieu, et c'est par là que je termine. Maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, avec le jeûne, des pleurs, des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce. Il est compatissant, lent à la colère, riche en amour. Et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Savons-nous voir dans l'histoire du monde, dans l'histoire de nos sociétés et dans notre propre histoire, dans nos vies, les avertissements de Dieu, ses appels à la repentance ? Est-ce que nous avons conscience de cela ? Il y a peut-être des sauterelles, des inondations, des sécheresses, des incendies dans notre vie. Comment les comprendre ? Savons-nous voir dans ces choses-là les avertissements de Dieu ? C'est probablement le Seigneur qui nous appelle à la repentance pour que nous revenions à lui, pour que nous nous approchions de lui. Il veut nous faire comprendre que nous ne pouvons pas vivre notre vie à notre guise, en dehors de lui. Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire.